Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France. RTL.
Charlemagne est le fils de Pépin le Bref et de Berthe de Laon, dite Berthe au grand pied. Il aura conquis la quasi-totalité du continent européen occidental. Il en fit un empire, érigeant le christianisme en religion commune.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Dans la curiosité, on aime bien bousculer les idées reçues et les tabous. C'est ce que l'on fait avec notre invité Alain Daguenaud qui dévoile les dessous croustillants de l'histoire de France. Alain Daguenaud, Charlemagne qu'on n'imagine pas du tout ayant été homosexuel. C'est ce que racontait pourtant son confesseur. Quels hommes a-t-il aimé ?
Alors, il faut voir qu'il avait tout un groupe de jeunes hommes, quand il était jeune,
oui,
autour de lui. Et alors, ceux qui l'adoraient, notamment à Aix-la-Chapelle, il avait une grande piscine d'eau chaude. Et ils étaient tous ensemble dans cette piscine, vous imaginez, à faire quoi ? Bon,
mais... Prendre un bain ?
se frotter un petit peu, c'est ce qu'il disait à son confesseur.
Et donc, il avait effectivement son ami de cœur, si je puis dire, c'est Roland. Fameux Roland de Roncevaux. Mm-hmm. Lorsque Roland est mort...
Non, les deux ensemble ? Pas possible.
Pardon ?
J'ignorais totalement.
Ah ben oui. Et donc, lorsque Roland est mort à Roncevaux, Charlemagne a eu une tristesse effrayante. Hein. Il a été dans un désespoir profond. D'ailleurs, il avait dit une chose, je ne verrai plus désormais le jour comme je le voyais avant.
Bernard Werber, vous saviez pour Charlemagne et Roland ?
Moi, je connaissais le son du corps, mais je ne savais pas que c'était celui-là.
Ah, ben voilà.
De ce corps-là dont il s'agissait.
Non, mais ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'on peut connaître les dessous croustillants, comme vous dites, de l'histoire. Alain Daguenaud, je ne sais pas ce que vous avez fait comme enquête, mais c'est fabuleux. Et je voulais dire aussi autre chose, c'est que j'y pensais pas, mais la référence à l'époque, c'était Alexandre le Grand. Or, Alexandre le Grand arrivait au mariage, quand il se marie avec la fille de Darius, il a deux de ses généraux dont il tripote les fesses au moment du mariage. Donc à l'époque, ça avait l'air beaucoup plus ouvert, beaucoup plus tolérant, peut-être qu'on le pense.
C'était beaucoup plus tolérant quasiment qu'aujourd'hui. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que Christine on the Queen... Bon, des queens, il y en a, des drag queens, il y en avait beaucoup au Moyen-Âge, surtout au moment... Bon, c'est un peu après, mais au moment des croisades, lorsque les chevaliers, qui étaient des gros rustres, qui effectivement avaient des enfants, avaient des... fait des enfants partout en France, enfin en Gaule ou en France, eh bien, ils revenaient, mais comme des drag queens. C'est-à-dire avec des fanfreluches partout, des parfums, des trucs comme ça. Ils avaient pris un peu la mode de là-bas.
Bah, ce sont justement les histoires que vous racontez dans ce livre, Les Dessous de l'Histoire, publié chez Larousse. On a découvert tout à l'heure que dans sa jeunesse, Charlemagne avait aimé des hommes. Il a aussi eu des conquêtes féminines. Quelle fut sa première concubine ?
Ah, sa première concubine, c'est parce qu'il a eu beaucoup de concubines, effectivement, avec lesquelles il restait parfois une semaine, 15 jours ou un an ou deux.
Oula.
Sa première concubine véritable, ça a été Gallienne. Non pas Guillaume, hein, bien sûr, mais...
pas le comédien. Bien sûr.
Non, non. C'était une nommée Gallienne. Et après, il a multiplié les concubines tout simplement pour des raisons de pouvoir ou pour des raisons d'argent. Donc, notamment, la fille du roi des Lombards, par exemple, eh bien, c'est sa mère, Berthe au grand pied, au singulier, hein, parce qu'elle n'avait qu'un seul grand pied. On dit souvent les grands pieds au pluriel. Non, non, c'est un, elle avait un grand pied, d'où
c'est original, ça, comme particularité physique.
Les chaussures, c'est peut-être plus compliqué.
Ah oui, c'est bon. Et donc, c'était Berthe, souvent, qui lui trouvait ses concubines. Voire même qui chassait les concubines quand elles lui plaisaient plus.
Pour des raisons politiques aussi ?
Souvent pour des raisons politiques, absolument. Ou pour des raisons de convenance. Notamment, il avait eu un jour une concubine qui lui avait fait un enfant bossu. Et la mère, Berthe, était tout de suite intervenue en disant « Tu ne vas quand même pas la garder, c'est ton honneur qui est en jeu ».
Alain Daguenaud, Charlemagne était un père jaloux et possessif. Il interdisait à ses filles de se marier. Pourquoi ?
Ben parce qu'il voulait les avoir autour de lui. Il leur disait « Mais qu'est-ce que vous allez vous ennuyer avec un mari ?» Alors que vous m'avez, alors que vous avez la cour, alors que on est bien ensemble, donc ne vous mariez pas, mais faites ce que vous voulez avec qui vous voulez.
Il était aussi très possessif avec sa sœur Charlemagne. Elle s'appelait comment ? Gisla, c'est ça ?
Gila.
Elle tombe d'abord amoureuse d'un homme que l'on connaît tous sans connaître son nom, qui était Augier. Et pourquoi le connaît-on ?
Alors, Augier, bien sûr, a fait partie de la fameuse, les fameuses chansons de Roland, hein, donc dans tout l'environnement de Charlemagne. Et Augier, c'est amusant d'ailleurs, parce que Gila, elle avait 12 ans. Elle voit Augier 30 ans. Elle le trouve magnifique avec ses grands cheveux, machin et tout, comme faisaient les grands seigneurs, les chefs à cette époque-là. Ils avaient toujours une grande chevelure. C'était ce qui marquait leur pouvoir. Et elle avait dit d'ailleurs, je le veux. Alors, Charlemagne lui avait dit, non, quand même, faut faire un peu attention, tout de même, c'est Augier, c'est un de mes proches. Elle lui avait dit, moi, je cherche un étalon, passez-moi l'expression, je cherche un étalon, ça sera lui ou personne.
Mais cet Augier, on le connaît tous sans le connaître, c'est ce que disait Sidonie. Pourquoi ? Quand on joue aux cartes, c'est ça ?
Oui, tout à fait, c'est l'as de pique.
C'est le valet de pique.
Le valet de pique, oui.
Oui, parce que là, s'il n'y a pas de personnage... Il faut avoir de l'imagination quand on, quand on regarde l'as de pique. Augier, c'est donc le valet de pique. Vous allez nous dire dans un instant pourquoi Charlemagne était aussi possessif avec sa sœur. Restez avec nous sur RTL.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
On découvre l'histoire de France version coquine dans la curiosité grâce à notre invité, le journaliste et historien Alain Dagneau, et puis l'écrivain Bernard Weber, l'auteur de Demain les chats aux éditions Albin Michel, nous fait l'amitié d'être resté avec nous parce qu'il se passionne pour nos sujets et nos invités, et ça nous fait franchement plaisir. On va finir de raconter cette histoire de Charlemagne qui adorait les hommes, qui adorait les femmes et qui était extrêmement possessif avec ses filles et avec sa sœur. Pourquoi sa sœur ?
Alors, possessif, c'est vite dit.
C'est peut-être un euphémisme, c'est
oui,
ça ?
Oui, parce qu'il avait une relation incestueuse avec sa sœur, qui a duré quand même 5 ans.
Ah oui.
Et ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que dans cette relation, eh bien, il a édicté un capitulaire.
C'est quoi un capitulaire ?
Un capitulaire, c'est une loi interdisant l'inceste au sujet.
Et donc, sauf au roi, évidemment.
Ben oui, sauf à lui-même. Mais c'est étonnant, et ça, on voit ça souvent dans l'histoire.
Le cynisme des politiques, ah bon ?
La mauvaise foi ? Tiens donc !
Allez, on va raconter le destin amoureux de Catherine de Médicis. Destin contrarié, c'est une duchesse italienne qui entre dans notre histoire en 1533. Comment ? Pourquoi ?
Parce qu'elle est de la puissante famille richissime des banquiers Médicis, et que François Ier n'avait plus d'argent dans les caisses. D'abord parce qu'il avait tout dépensé, c'était un joyeux lion, hein, et notamment il dépensait beaucoup pour ses aventures amoureuses, et pas seulement d'ailleurs. Vous savez, tiens, je vais vous raconter juste une petite parenthèse, c'est qu'il avait dans les armées, vous savez, il y avait des séries de prostituées.
Oui.
Et il avait... ordonné de payer la chef des prostituées et les prostituées, quand même 100 000 écus, c'était une somme colossale. Et il l'a écrit, on a ses lettres, en disant je tiens à ce qu'elle soit remerciée.
Bah, c'est joli. Tout travail mérite récompense, en effet.
Exactement, tout à fait. Et je ne sais plus pourquoi j'ai dit ça.
Alors, on parlait de Catherine de Médicis qui débarque dans l'histoire de France.
Et c'est vrai que, alors, elle arrive, elle se marie, elle était toute jeune, elle avait 14 ans. On la marie à Marseille. François Ier est là. Et c'est amusant parce qu'il se dit « chic, je vais remplir mes caisses ». Mais en plus de ça, le soir des noces, les deux, Henri II, le futur Henri II et Catherine avaient 14 ans. Il a tenu
donc,
à assister...
Donc, futur Henri II, fils de François Ier.
Fils de François Ier. Et il a tenu à assister à ce qu'il appelait la joute. Vous voyez ce que c'est ? C'est la relation sexuelle de la nuit de noces. Mais ça, c'était
quel bonheur avec son père comme spectateur.
Voilà, ça ouvre des perspectives. Ça peut couper quelques moyens.
Il donnait des conseils au moins, ou non, il juste regardait.
Ah, parfois, il pouvait donner des conseils. Ça, il adorait. Vous savez, c'était une pipelette terrible, un peu comme François Mitterrand. D'ailleurs, je le raconte, ils adoraient les histoires salaces, et ils voulaient absolument savoir qui faisait quoi et comment. Et ça, c'était François Ier. Et pardonnez-moi, mais Mitterrand, c'était ça aussi. On parle des devis de Mitterrand, il en a eu beaucoup plus.
Alors l'histoire d'amour entre Henri II et Catherine de Médicis, ça se passe bien ? Ils sont très amoureux, ils font des enfants ?
Alors, d'abord, ça se passe pas bien, parce que quand on se mariait, c'était pour avoir des enfants. et pour la filiation. Or, pendant un bon bout de temps, la relation n'a donné aucun enfant. François Ier envisageait de répudier la reine, et il s'est dit, mais comment je vais pouvoir faire? Et là, il avait une favorite, Diane de Poitiers, et Diane de Poitiers lui dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et en fait, elle a fait un examen intime, parce qu'on avait là aussi une liberté vis-à-vis du corps, notamment. Elle a fait un examen intime et elle lui a dit...
De son amant?
Oui.
De son roi d'amant?
Oui, de son roi d'amant. Et elle lui a dit, mais tu ne peux pas. Parce qu'il avait le méa, non pas culpa, mais
la petite fente qui permet d'uriner et d'éjaculer.
Qui permettait d'éjaculer, qui était par en dessous, sous le sexe.
Ben c'est le mea culpa, du coup.
Et alors Très bon, ça.
C'est pour ça que tu ne pouvais pas avoir d'enfant, c'est ça?
Et voilà. Et donc, c'est Diane de Poitiers qui lui a dit, il faut absolument que tu fasses l'amour avec ta femme pour des enfants.
Oui.
Mais maintenant, ben, c'est elle qui se mettra sur toi.
Et ça a marché. Elle lui a donné 11 enfants.
Ah oui, c'est fou. Hein.
Comme quoi, à quoi ça tient une descendance royale? Mais il y a quand même un ménage à trois qui s'installe.
Oui, oui.
Et Catherine de Médicis ne le vit pas bien. Du coup, elle espionne son mari, Henri II. Comment?
Ah, alors, elle avait imaginé un truc. C'est de faire des trous dans le parquet du château. Alors, je ne sais plus quel château, d'ailleurs, Amboise ou je ne sais plus lequel. Et elle avait surveillé comme ça les ébats.
Donc elle était dans la pièce au-dessus,
oui, dans la
et
pièce
elle regardait
au-dessus. Et elle avait, parce qu'elle voulait comprendre pourquoi Diane de Poitiers avait tellement de succès. Surtout que Diane de Poitiers était quand même beaucoup plus âgée qu'Henri II. Et elle les a vus et elle l'a raconté, on a le récit. Ça, c'est un très joli récit où elle dit, oh, ils étaient beaux tous les deux, ils faisaient des galipettes, et puis alors quand ils tombaient du lit, bah, ils continuaient à faire l'amour sur le tapis velu.
C'est marrant parce qu'on a l'impression qu'il y avait moins de tabous et moins d'intimité finalement à cette époque.
Ben, c'est normal qu'il y ait moins d'intimité parce qu'effectivement il n'y avait pas les systèmes de chauffage et ainsi de suite d'aujourd'hui. Donc tout le monde était un peu les uns sur les autres.
Vous racontez, Alain Dagneau, plein
d'histoires,
plein d'anecdotes dans votre livre Les Dessous croustillants de l'histoire de France.
Je crois pas qu'il fait un peu froid, les amis, là, ce soir.
Rousse. Ici, ça va. Je vous vois venir, donc ici, ça va. Non, mais il faut raconter ce bataillon de beauté, ces jeunes femmes qui entouraient Catherine de Médicis. Elle jouait avec ces jeunes femmes. Qu'est-ce qu'elle leur demandait de faire?
Ce qui est étonnant, c'est qu'on représente souvent Catherine de Médicis comme une reine très austère, très froide, très, très rigide. C'est pas du tout ça. Elle savait rire. Elle avait effectivement créé un cadron volant de très jolies filles qu'elle utilisait comme espionne pour espionner les différents seigneurs. Vous savez, on était en pleine guerre de religion. Donc elle voulait les espionner pour savoir ce qu'ils allaient faire. Et donc elle dispatchait, j'allais dire, les filles pour qu'effectivement elle lui fasse remonter les informations.
Et puis de temps en temps, elle leur demandait de se dévêtir.
Oui, parce que...
Et alors elle jouait à quoi?
Ben parce que Henri II ne s'occupait pas beaucoup d'elle. Et puis après, Henri II est mort, donc vous savez, lors du fameux tournoi. Et elle adorait faire dévêtir les plus belles des filles. Elle les faisait danser autour d'elle. Et alors son grand plaisir, mais chacun ses fantasmes, hein, c'est de leur claquer les fesses à grands coups de claques.
Des grandes claques sur les fesses.
Mignonnet, effectivement.
Comment c'est ça,
Bernard Werber?
Ah ben, c'est notamment les mémoires. Et alors justement,
dans les mémoires, il dit jamais bien claquer
les mémoires,
les
non pas les siennes, bien sûr, mais les. On a des lettres.
Les mémoires des jeunes filles qui s'en souvenaient.
Ben voilà, parce que faut voir aussi que c'était souvent des grands personnages, ces femmes, et qui effectivement avaient une grande culture. Et racontait, c'est ça que je trouve fascinant, c'est que je suis allé chercher les textes, par exemple, de lettres, on en a énormément, et les historiens n'osent pas y aller. Je ne sais pas pourquoi, par pudibonderie, par frilosité.
Ils vous laissent l'autoroute, et vous en profitez.
Il y avait effectivement ça, et les actes des médecins, par exemple.
Allez, une autre histoire à venir.
Ah oui, dans un instant, Louis XIV va faire son entrée dans notre studio. On lui demandera qui lui a refilé la chaude pisse. À tout de suite, les curieux.
On est bien entre curieux.
Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 22h.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Cato la Borgnesse, une sacrée bonne femme.
Elle était très laide, elle avait un œil divergent. Elle était un peu la femme à tout faire d'Anne d'Autriche. Elle a été choisie, effectivement, pour le déniaisage de Louis XIV. Elle a innové en demandant une gigantesque somme d'argent.
La curiosité est un vilain défaut.
Mozart vécut ici pendant 6 mois, dans le cadre de sa grande tournée devant les cours d'Europe que lui faisait faire son père.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
On visite l'hôtel de Beauvais grâce à notre réalisateur André Facetta. L'hôtel de Beauvais, c'est le cadeau qu'a reçu Cato, la borgnesse, celle qui a déniaisé Louis XIV. On va vous raconter cette histoire dans une minute, restez avec nous. Mais d'abord, notre invité Alain Dagneau, journaliste passionné d'histoire, a une petite histoire sur Ronsard à nous raconter. Mignonne, allons voir si la rose...
Oh, j'adore ce poème.
Tellement joli, tellement poétique, sauf que...
C'est gnangnan au possible, c'est-à-dire que les écoles et tout ce qu'on a pu apprendre à nos enfants et puis ce qu'on a pu nous apprendre sur Mignonne, allons voir si la rose et ainsi de suite, ça c'est très joli.
Ce
mais on oublie toujours la suite. Je vais vous la lire la suite parce que je l'ai notée. Pour parler de Mignonne, je me plains de sa main et de son godemichet, bien sûr. C'est un gros instrument par le bout étréci, dont chaste elle corrompt toute nuit sa jeunesse.
Et pourquoi on l'apprend pas ça à l'école? Je comprends pas que ce soit arrêté juste avant.
Oui, hein, moi non plus.
Bon, allez, on voulait découvrir ça.
Je Bernard Werber. Heureusement que c'est une rose et que ce n'est pas une renoncule.
Il faut s'y connaître en botanique là, pour comprendre. Oui. Pour comprendre
on
cette
connaît
vanne.
Un très bon botaniste.
Allez, on va raconter donc par qui et comment Louis XIV a été déniaisé. Elle s'appelait donc Cato la borgnesse. Ça donne envie. Est-ce qu'elle était aussi moche que son surnom le laisse entendre?
Elle était effroyablement laide. Elle bavait, elle louchait, elle avait un œil qui manquait. Ceci étant, elle avait deux qualités. La première, c'est qu'elle savait admirablement faire des lavements avec des clistères à la reine-mère.
Des lavements
locaux.
D'accord, pour la santé, quoi.
Et deuxièmement, elle avait des pratiques sexuelles tellement originales qu'on la recherchait partout, notamment un archevêque, par exemple, était un de ses habitués.
Oui, donc ce n'est pas un hasard si on est allé la chercher pour déniaiser Louis XIV. Elle a donc été récompensée par une forte somme d'argent, c'est ça ?
La reine-mère était tellement contente de voir que Louis XIV enfin s'ouvrait à un univers nouveau, qui lui a d'ailleurs valu une chaude pisse effroyable, qui est devenue plus ou moins chronique chez lui. Hein. Ça a été un gros problème de santé. Bon, faut dire qu'il n'avait pas une santé.
Il n'en a jamais guéri, c'est ça ?
Il n'en a jamais guéri. Non.
Donc
qu'est-ce qu'elle lui a appris cette
fameuse... C'est Cato la borgnesse qui lui a offert la chaude pisse.
Cato la borgnesse, vous dites qu'elle avait des pouvoirs, des connaissances extraordinaires. Est-ce qu'on a un peu le détail de ce qu'il a appris Louis XIV, notamment ?
Alors là, je suis désolé, je suis allé très loin, effectivement, dans les recherches, mais pas à ce point-là.
Quand même pas. Alain Dagneau, vous publiez Les deux sous croustillants de l'histoire de France chez Larousse. On y découvre aussi ce que Mazarin a fait subir au jeune Louis XIV. C'est le valet de chambre du roi qui l'a raconté. Qu'est-ce qu'il lui faisait subir ?
Le valet de chambre, il a eu des attouchements. Et les attouchements étaient allés suffisamment loin pour que ce valet de chambre se rende compte, voit ce qui s'est passé.
Mais c'était bien avant Cato la borgnesse, ça.
Il
était tout jeune,
avant.
Louis XIV.
C'était deux ans avant, il avait 12 ans. Et il y a effectivement ce constat que fait le valet de chambre. Ce qui est curieux, c'est qu'il en informe la reine-mère, qui était, vous savez, très proche de Mazarin. Il lui dit, il faut faire attention. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est lui qui a été viré.
Ah bah oui,
c'est lui qui a dénoncé.
C'est le valet de chambre qui a été viré.
Mazarin n'a jamais été inquiété par le roi,
non,
la reine.
La famille Mazarin qui va jouer évidemment un rôle important dans la vie sexuelle du jeune Louis XIV. Qui sont les sœurs Mancini? Vous pouvez nous le rappeler?
Ce sont les nièces de Mazarin.
Ouais.
Et c'est vrai que Louis XIV a été très amoureux, authentiquement amoureux, notamment de Marie Mancini. Mais là aussi, la reine et Mazarin ont dit que ça n'est pas possible. Parce qu'il faut un mariage beaucoup plus de plus haut niveau, donc avec l'Espagne. Et c'est là qu'il y a eu ce mariage avec Marie-Thérèse.
À Saint-Jean-de-Luz.
Et donc, ils étaient tout jeunes l'un et l'autre. Et donc, mais la relation, c'est amusant là aussi, parce qu'elle était assez jeune, toute potelée, toute grassouillette. Elle adorait toutes les sucreries, elle adorait l'ail surtout. Alors donc Louis XIV était un peu gêné. Mais il s'est dit, bon, je vais quand même honorer ma femme, ma nouvelle femme. Et il l'a honorée jusqu'à un certain point, parce qu'il commençait à en avoir assez. La pratique habituelle de Marie-Thérèse jeune, c'était d'applaudir dès qu'ils avaient fait l'amour. Donc... Elle se frottait les mains au début, oui. Et à la fin, elle applaudissait. De ses petites mains potelées, alors ça finissait par, ça finissait par l'exaspérer.
Par agacer.
Louis XIV, qui a eu de nombreuses conquêtes, certaines avaient même de drôles de surnoms. Par exemple, pourquoi est-ce qu'il surnommait Madame de la Vallière le paravent ?
Ah, c'était pour cacher sa relation avec Marie Mancini. Qu'il avait entrepris une relation avec la Vallière qui ne l'intéressait pas, et elle était le paravent de sa vraie relation avec Marie Mancini. Le problème, c'est que le paravent est devenu le personnage principal puisqu'il s'est amouraché de la Vallière.
Louis XIV était-il homophobe ? Réponse dans un instant sur RTL.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Les dessous croustillants de l'histoire de France, c'est le thème de notre curiosité avec notre invité, le journaliste agrégé Alain Dagneau. C'est aussi le Facebook de l'histoire, c'est ça, le Facebook?
Oui, oui.
C'est osé.
C'est le titre un peu audacieux aussi, qui est le sous-titre.
Alain Dagneau, dans votre livre, vous posez cette question. Louis XIV est-il homophobe? Déjà, pourquoi vous vous posez cette question et quelle est votre réponse?
Alors... Je crois que c'est vous qui vous la posez, cette question.
Mais elle est dans votre livre.
Elle est dans mon livre. Oui, c'est vrai qu'il était homophobe. Ça, c'est évident. Bien que totalement entouré d'homosexuels. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, parce qu'il ne supportait pas les, disons, les compétiteurs multiples, parce qu'on pouvait être homosexuel et puis avoir des séries de relations.
Son frère était homosexuel.
Son frère, monsieur. Qu'on appelait monsieur. Mmh. Et d'ailleurs, monsieur, on l'appelait madame. Et lorsqu'il s'est marié à la princesse Palatine qui était une très forte femme, on l'appelait monsieur. Donc monsieur était madame, madame était monsieur, ça devenait un peu compliqué. Et c'est vrai que monsieur, pourquoi le frère du roi était-il... Alors il était complètement drag queen, lui. Parce que les parents de Louis XIV avaient cru, Mazarin notamment, enfin qui n'était pas le père, mais bon, Mazarin avait dit, il ne faut pas qu'ils se battent comme deux frères qui sont toujours en train de se battre pour le pouvoir. Donc ce qu'on va faire, on va habiller le frère de Louis XIV en femme, en fille.
Mmh. Quelle bonne idée, donc, depuis la tendre enfance.
Ah oui, depuis la plus tendre enfance. Et il lui avait mis dans les bras, si je puis dire, un futur cardinal qui s'appelle Fleury. Et donc, les deux se trouvaient constamment habillés en filles. Et comme a dit Fleury d'ailleurs par la suite, il disait, c'est incroyable, toutes ces petites mouches, toutes ces afféteries, c'est fou le plaisir qu'on finit par y trouver et qu'on peut difficilement s'en séparer.
Mais alors pourquoi il était homophobe alors, Louis XIV? On a la réponse.
Il était homophobe parce que d'abord, bon, il y avait...
Par trop... jalousie, c'est ça?
Oui. Il y avait une jalousie à l'égard d'un certain nombre d'homosexuels autour de lui, comme Turenne, comme Lully, comme des gens comme ça, et des gens de grand talent. Donc ça, il ne le supportait pas.
Il lui faisait de l'ombre.
Il lui faisait de l'ombre, exactement.
Allez, on change de puissant avec Napoléon III, tiens, avec nos mots d'aujourd'hui, Alain Dagneau, on dirait, celui-là, c'est un sex-addict.
Ah ben totalement, c'était un érotomane complet. Il le disait d'ailleurs, il disait, chez moi c'est une maladie. Mais il faisait, pouvait faire l'amour plusieurs fois par jour, dès qu'il voyait une fille, allez hop, il en tombait amoureux. Mais ça très jeune, à 12 ans, un de ses professeurs, c'était en Suisse, quand il était en exil, à 12 ans, ce professeur disait, j'en ai assez, il n'écoute jamais la classe, il est toujours au fond à regarder par la fenêtre les filles qui passent.
Mais c'était un sexe symbole, c'était un beau mec, Napoléon III, enfin le futur Napoléon III?
Pas du tout, mais c'est ça qui est étonnant.
Il était tout petit?
Il était petit, il avait des petits yeux à moitié fermés, il était... mais
pareil. Les jambes arquées?
Oui, absolument, mais il marchait de côté justement, parfait. Oui. Mais ceci étant, paraît-il, il avait un charme, une séduction.
Il avait des belles moustaches.
Et qui plaisait aux femmes.
Bernard Werber qui est resté...
La moustache, oui. Ça fait tout. Non, hein.
Qui il intervient.
Avait, il a des moustaches qui, pour l'époque, devaient être extrêmement viriles, attirer les femmes, non?
Alors, ça, c'est pas que les moustaches attiraient les femmes. Faut pas fantasmer. En revanche, ce qui est amusant, c'est que dès qu'il avait une relation un peu quelque chose, quand ça le titillait, il se tortillait les moustaches. J'ai dit les moustaches. Hein.
Oui. Ce Napoléon III, qui va, alors on va évidemment avancer un peu vite dans son histoire, parce que si on devait raconter toutes ses conquêtes, il faudrait garder l'antenne jusqu'à minuit, je crois.
Hein.
Et puis il y a RTL Grand Soir qui se prépare, donc c'est pas possible. En revanche, il épouse Eugénie, évidemment, qui est une jeune aristocrate un peu désargentée, c'est ça?
Oui, je dirais, même si j'étais méchant, un peu une pimbèche mijaurée.
Oui, et qui, elle, à l'inverse, n'est pas du tout intéressée par le sexe.
Elle trouve le sexe sale. Ah. En revanche, elle veut le pouvoir. Donc, elle a tout fait pour séduire Napoléon III. Elle y a réussi. Mais ceci étant, bon...
Elle souffre aussi d'un défaut désagréable.
Très désagréable. Elle a d'abominables flatulences. Et en plus de ça, bon, tous les récits le confirment, c'est que ce sont des flatulences, mais bon, il fallait beaucoup de parfums pour essayer de...
Quel enfer! C'est pour ça qu'il avait des rabatteurs, Napoléon III, c'est ça, pour
il avait des
trouver
rabatteurs,
de jolies femmes?
Il avait, et je dirais qu'un certain nombre de nos présidents après, puisque dans ce livre je vais jusqu'à Chirac,
oui.
Avaient des pieds-à-terre. Et lui-même avait il avait acheté un immeuble complet rue du Bac. Et il avait des... comme ça, il alternait ses relations.
D'un appartement, d'un étage à l'autre, c'est ça?
Oui, voilà.
Ah oui, effectivement, il était carrément...
Organisé.
Érotomane et très, très organisé. Aussi, allez, une dernière anecdote, il a été, parce que sa vie politique a été mouvementée, oui. À Napoléon III, avant de devenir empereur, il a été emprisonné au fort de Ham. Alors là, moi je dis ça, j'imagine une geôle sombre, avec un lit, de la paille, sauf que c'était pas du tout ça.
Non, parce
ça ressemblait à quoi, sa détention?
Louis-Philippe était un brave roi, un brave souverain, et il l'avait enfermé dans le... à Ham, mais ceci étant, il pouvait faire un peu ce qu'il voulait. Il y avait un appartement.
Oui.
Il avait plusieurs proches qui étaient avec lui. Et un jour, le futur Napoléon III, Louis-Napoléon, donc, disait « Oh, j'ai vraiment besoin de quelqu'un pour mes commodités. » Alors, bien sûr, le patron de la prison a compris. Il a demandé au ministre de la Justice... s'il pouvait y avoir une commodité qui serait choisie. Il a choisi...
Blonde ou brune?
Ah ben, elle était blonde. Elle avait toujours porté les sabots. On l'a appelée la belle sabotière. Il lui a fait quand même... Alors, c'est amusant parce que elle s'est retrouvée donc en prison avec lui.
Oui.
Elle lui a fait deux enfants.
Ah,
mais ce qui était fascinant, c'est que le gouvernement l'a rétribuée chaque mois. Pour ses bons services.
Mais c'est ce qu'on dit, tout travail mérite salaire.
Absolument.
Alain Dagneau.
Merci beaucoup Alain Dagneau. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres anecdotes
coquines
et érotiques à découvrir dans votre livre Les Dessous croustillants de l'histoire de France. Il y a aussi beaucoup de citations. Tiens, on va terminer avec une question de Coluche. Quel est l'animal qui peut changer de sexe? Personne ne répond.
Le chat?
Le morpion.
Merci. Merci beaucoup Bernard Werber d'être resté avec nous jusqu'à 22h. C'est un vrai plaisir et on se régale en lisant votre roman, votre nouveau roman. Demain, Les Chats, c'est aux éditions Albin Michel.
Je vous remercie de m'avoir fait découvrir le travail d'Alain Dagneau. C'est ça qu'on devrait apprendre à l'école. Ça donnera aux enfants envie de connaître mieux l'histoire de France.
Vous écoutez RTL.